Le monde d'aujourd'hui recherche de plus en plus des expériences extrêmes. On fait des sports extrêmes. On va voir des films d'horreur pour avoir la peur de notre vie. Le monde d'aujourd'hui recherche des expériences extrêmes. Et à cause de cela, dans le monde chrétien, on a développé l'idée que certaines émotions extrêmes sont en réalité l'action du Saint-Esprit. Et en recherchant des expériences religieuses extrêmes, on recherche ce que l'on croit être l'action du Saint-Esprit. Il est vrai que Jésus a quitté ce monde en nous faisant une promesse. Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il a dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous envoyer le Consolateur, celui qui sera avec vous à tout moment, en tout lieu, en tout temps. » Cette promesse qu'il a faite à ses disciples est aussi pour nous, pour chacun d'entre nous. Il nous a promis de nous donner, d'avoir accès à cette puissance que Dieu répand sur ses enfants pour leur donner la grâce de pouvoir vivre selon son plan et le servir selon son plan. Mais recevoir le Saint-Esprit, est-ce que c'est avoir ce coup de foudre qui nous fait vibrer dans notre être entier comme par quelque chose d'extraordinaire, un éclair qui nous foudroie et qui nous descend le long de la colonne vertébrale? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un sport religieux extrême? Certains le croient. Est-ce que le Saint-Esprit tombe sur les uns par hasard et sur les autres par hasard, sans qu'on sache pourquoi il est tombé sur lui et pas sur celui-ci? En réalité, les Écritures nous indiquent qu'il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Et permettez ce matin que j'envoie 7 avec vous. 7 conditions que les Écritures nous présentent pour recevoir le Saint-Esprit. La première de ces conditions, bien entendu, c'est la repentance. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, se trouvent rapportés ces événements qui sont en rapport avec la fête de la Pentecôte qui a suivi la crucifixion de Jésus. À ce moment-là, les disciples, animés du Saint-Esprit, vont prêcher et ouvrir les yeux sur la situation réelle de ce peuple à ce moment-là. Ils vont leur dire, « Vous avez crucifié celui que Dieu nous a envoyé. » Après ce discours, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 37, il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La première condition que j'aimerais mentionner pour recevoir le don du Saint-Esprit, c'est la repentance. La repentance, ce changement d'état d'esprit dans notre relation avec Dieu. La repentance, c'est une manière de dire à Dieu, « Seigneur, je regrette d'avoir brisé ton cœur en ayant brisé ta loi. » La repentance, c'est reconnaître à quel point nous sommes loin de ce que le Seigneur voudrait nous voir vivre, loin du modèle. Nous reconnaissons que les Juifs, les Romains ont mis Jésus à mort, mais en réalité, notre situation de pécheur rend sa mort nécessaire pour nous aussi, en particulier. Et Jésus serait mort sur la croix si nous avions été le seul à avoir besoin de ce sacrifice pour être sauvé. Nous sommes donc chacun individuellement parmi ceux qui ont rendu nécessaire le sacrifice de Jésus pour nous. Ainsi, la repentance, c'est ce changement d'état d'esprit dans notre relation avec Dieu. Reconnaître à quel point nous avons besoin de lui. Reconnaître à quel point ce que nous avons à lui offrir ne vaut rien. Mais la repentance, ce n'est pas la peur de l'enfer, la peur d'être perdu. Il doit y avoir là derrière une autre motivation. Cette motivation dont l'apôtre Paul parle dans la deuxième épître aux Corinthiens où il dit « L'amour du Christ nous presse ». C'est là la motivation réelle de cet état d'esprit de repentance. Le désir de quelque chose de meilleur. L'insatisfaction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, le désir que Dieu intervienne, qu'il change, qu'il efface ce passé, le désir d'enlever de notre vie les barrières qui empêchent l'action de Dieu pour aller un pas plus loin. La première condition pour que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint, comme le texte le mentionne, c'est la repentance. La deuxième condition qui nous est présentée dans les Écritures par rapport à ce don du Saint-Esprit, cette deuxième condition est fort simple. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 11, Jésus en parle. C'est peut-être la condition la plus facile à remplir. Évangile de Luc, chapitre 11. Jésus parle aux gens qui sont devant lui, des parents. Et il leur dit, mes enfants, si votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous allez lui donner un serpent à la place? S'il vous demande un œuf à manger, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? Vous, pécheurs, vous savez être gentils avec vos enfants. Et Dieu serait-il méchant, lui? Évangile selon Luc, au chapitre 11, au verset 13, Jésus dit, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Demandez. C'est la deuxième condition. Demandez. Parce qu'en réalité, nous ne demandons pas quelque chose auquel nous ne croyons pas. Nous ne demandons pas quelque chose dont nous pensons ne pas avoir besoin. Et sur ce chapitre de demander, il y a la fameuse parabole de Jésus. La parabole de Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 18 que nous appelons la parabole du juge inique, où Jésus raconte cette histoire. Il y avait une fois un juge qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, qui n'avait soin de personne, qui avait soin de lui et de ses affaires. Et puis, une femme vient et lui demande qu'on lui fasse justice. Une femme seule, une veuve. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Comprenez, elle ne paye pas cher. Alors il s'occupe de ses affaires et ne s'occupe pas du dossier de cette femme. Mais elle vient d'une façon persistante, pour reprendre l'expression du texte, lui casser la tête tous les jours. En français, on va dire lui casser les pieds aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle l'ennuie tellement que ce juge finalement se dit « Cette femme m'ennuie, son dossier ne m'intéresse pas, mais elle m'ennuie tellement que je vais lui résoudre son problème tout de suite. » Et Jésus conclut cette histoire au verset 7. Évangile selon Luc, chapitre 18, au verset 7, il dit « Et Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Demandez. Demandez avec persistance. Si un non-croyant fait ce que finalement vous lui demandez parce que vous l'ennuyez suffisamment pour qu'il le fasse, ne pensez-vous pas qu'en parlant à Dieu, en lui disant à quel point vous ressentez votre besoin, ne pensez-vous pas qu'il va y répondre? Alors vous allez dire, oui, mais enfin, Dieu sait très bien, pourquoi avons-nous donc besoin de lui répéter 100 fois la même chose? Dieu n'est pas un enfant pour qu'on lui répète 100 fois la même chose avant qu'il le fasse. En fait, lorsque nous demandons avec persistance, ce n'est pas dans notre prière pour faire connaître à Dieu nos besoins. Il les connaît. Le problème, c'est que nous ne les connaissons pas. Le problème, c'est que nous n'en avons pas réellement pris conscience. Le problème, c'est que ces besoins ne sont pas pour nous essentiels. Si un enfant... Si votre enfant vous répète tous les jours, « Papa, maman, je voudrais ceci, je voudrais ceci. Quand est-ce que tu vas m'acheter ceci ?» et qu'il vous le répète pendant 3 mois, vous allez vraiment avoir l'impression qu'il y tient, qu'il le veut, qu'il en a besoin, qu'il a ça à cœur. Si vous le demandez une fois par hasard en le voyant dans un magasin et qu'il n'en reparle plus, vous allez vous dire, « Il l'a oublié, c'est pas plus grave que ça. » Mais s'il vous casse les oreilles pendant 3 mois en vous demandant tous les jours ce qu'il veut, vous allez vous aussi développer l'impression qu'il en a vraiment besoin. Dieu a besoin de savoir à quel point nous avons besoin de son esprit dans notre vie. On raconte l'histoire de Corrie ten Boom, que des gens entendaient prier à haute voix. Et il raconte qu'elle faisait ceci. Elle était avec sa Bible en main et disait à Dieu, « Seigneur, regarde, lis la promesse toi-même, lis-la et accomplis-la. » Une manière persistante de dire à Dieu, « Seigneur, ta promesse est là, je la réclame, j'en ai besoin. » La deuxième condition, demandez. Demandez avec persistance. Montrez à Dieu à quel point vous avez pris conscience de votre besoin. La troisième condition pour recevoir le Saint-Esprit nous est présentée dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3, et j'aimerais y lire le verset 2. Galates, chapitre 3, verset 2 dit ceci. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et regardez un petit peu plus loin dans le même chapitre au verset 14. Il est question ici de la bénédiction d'Abraham où il est dit « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Troisième condition, une foi vivante, une confiance profonde. L'apôtre Paul, s'adressant ici aux Galates, leur rappelle que Dieu ne va pas répondre à une attitude légaliste de leur part. « Je dois faire ça, Seigneur, regarde, j'ai fait tout ce que je devais faire, maintenant paye. » Il leur rappelle que c'est par la foi qu'ils ont reçu Jésus-Christ, c'est par la foi qu'ils ont reçu le salut, c'est par la foi qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est cette assurance que l'on a que Dieu va réaliser sa promesse, qu'il va y répondre dans son temps et à sa manière, pas nécessairement à la nôtre. C'est cette ouverture vers Dieu pour lui laisser la latitude de répondre à sa promesse selon sa sagesse et son amour, lui qui connaît la fin dès le commencement. Dans le livre « Premiers écrits » d'Ellen White, permettez que je vous lise ce paragraphe. « Le sentiment n'est pas la foi. C'est à nous d'exercer la foi et à Dieu de nous donner le sentiment de joie et des bénédictions. La véritable foi se réclame des bénédictions promises avant qu'elles soient comprises ou ressenties. Le meilleur moment pour exercer la foi, c'est lorsqu'on se sent privé de l'Esprit. Quand d'épais nuages semblent nous environner, c'est alors qu'il faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La foi, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas cette émotion extraordinaire que les chrétiens veulent ressentir à tout prix, ayant l'impression de vivre là une expérience religieuse extrême, donc surnaturelle, donc divine. Non pas. En réalité, c'est cette action de Dieu en nous en réponse à la repentance, à la demande persistante et à notre confiance totale en lui. La foi vivante, c'est l'assurance que nous avons que Dieu va réaliser, même si on ne voit pas encore. C'est cette assurance que ce que Dieu a promis est une réalité et que Dieu nous l'accordera en son temps et de sa manière. La quatrième condition pour recevoir le don du Saint-Esprit est inscrite dans le livre des Actes au chapitre 5. Dans le livre des Actes au chapitre 5, au verset 29, il est écrit ceci. Actes, chapitre 5, au verset 29, se trouve cette parole. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et un petit peu plus loin, au verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance. L'obéissance est une condition pour recevoir l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit ne tombe pas par hasard sur l'un ou sur l'autre, comme une tuile tomberait au coin d'un toit sur celui qui passe. Le Saint-Esprit n'est pas accordé au hasard, comme la grippe attrape les uns et pas les autres. Elle est le résultat d'une relation renouvelée avec Dieu par certains éléments. La repentance, demander, une foi vivante, et aussi l'obéissance, l'expression de notre désir d'être en harmonie avec Dieu. C'est ça l'obéissance. Le monde chrétien d'aujourd'hui cherche généralement à opposer l'obéissance à Dieu et l'action de l'Esprit de Dieu. Bibliquement, c'est difficile à comprendre. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 2, nous est rapporté ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte qui a suivi la mort et la résurrection de Jésus. À ce moment-là, l'Esprit s'est manifesté d'une façon particulière dans ce que nous appelons la pluie de la première saison, et les apôtres ont prêché avec puissance. L'Église a commencé à ce moment-là. Mais la fête de la Pentecôte, en réalité, pour le peuple hébreu, avait un sens un peu différent. Lorsqu'on parle de la Pentecôte aujourd'hui, c'est directement associé à l'action du Saint-Esprit à cause du texte d'Actes chapitre 2. Mais la fête de la Pentecôte, dans les institutions de l'Ancien Testament, avait un sens un peu différent. La fête de la Pentecôte, c'était la célébration du don de la loi par Dieu à son peuple au moment où ils étaient au Sinaï. Et souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël, dans son voyage dans le désert, est arrivé au pied du Sinaï, ils avaient quitté l'Égypte depuis 50 jours. C'est-à-dire qu'ils avaient fêté Pâques 50 jours avant. La Pentecôte était donc pour le peuple hébreu cette célébration de ce moment unique et particulier où Dieu leur avait donné ces deux tables de pierre avec sa loi. C'est cela qu'ils célébraient dans la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Mais alors, comment opposer la loi donnée par Dieu à son peuple comme texte de l'Alliance et l'action du Saint-Esprit? En fait, ce sont deux choses identiques. En réalité, le Saint-Esprit ne va faire que nous amener à l'obéissance de sa loi. Vous connaissez ce passage dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Il est écrit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez, pratiquiez mes lois. L'obéissance est par conséquent primordiale. La volonté d'obéir à Dieu pour que Dieu enracine en nous cette obéissance dans une nouvelle nature. Dans le même ouvrage de Ellen White, je lis cette phrase. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu, et seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. L'obéissance, finalement, c'est la foi en action. C'est plus qu'une croyance. C'est le résultat dans notre vie de ce que nous croyons. La cinquième condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'implication dans la mission. Et là, j'aimerais prendre une histoire que Jésus raconte dans l'Évangile de Luc au chapitre 11. C'est une parabole. Mais c'est une parabole intéressante qui se trouve dans le même chapitre que celui auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Jésus raconte là une autre histoire. Et il dit, imaginez qu'il y ait un soir, très tard, un homme qui sorte de sa maison, qui aille voir son voisin, qui tape sur la porte jusqu'à ce que finalement il se réveille, qu'il vienne à la fenêtre et qu'il lui dise « qu'est-ce que tu veux ?» à cette heure-ci. Et cet homme qui le dérange lui dit « écoute, des amis sont arrivés à l'improviste chez moi et il se trouve que je n'ai rien à leur donner à manger. Prête-moi 3 pains. » Et l'autre, qui a encore les yeux gonflés de sommeil, il lui dit, « Mais écoute, t'as vu l'heure ?»« Oui, mais j'ai des amis qui viennent d'arriver. » prête-moi 3 pains. Écoute, lui dit, la porte est fermée. Je reviens une autre fois. Non, j'ai des amis qui sont venus. Prête-moi 3 pains. Mais souvenez-vous, l'hospitalité à l'oriental est une loi sacrée. Quelqu'un vient chez vous, vous ne pouvez pas vous permettre de lui dire, ben écoute, bienvenue, installe-toi, va dormir, puis on mangera demain matin au petit déjeuner. Non, 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 non. L'hospitalité à l'oriental, ceux qui viennent de ces pays-là savent de quoi je parle. Cet homme ne peut pas faire autrement que de le recevoir et de le nourrir, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et il va chez son voisin, donne-moi 3 pains. Seulement ouvrir la porte, c'est plus compliqué à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une clé, clic-clac, c'est ouvert. À l'époque, elle est véritablement barrée, la porte. C'est-à-dire qu'il y a des grosses poutres qui vont être mises en travers, en bas et au milieu, pour qu'on ne puisse pas ouvrir la porte. Ça veut dire qu'il doit descendre, parce qu'il dort à l'étage. Il doit peut-être avoir de l'aide pour prendre ses planches et ses poutres et les enlever de la porte. C'est toute une affaire, ouvrir la porte au milieu de la nuit, et puis aller dans son garde-manger. Vous comprenez, le réfrigérateur n'est pas là juste près de la porte. Il va falloir aller dans son garde-manger, chercher ce qu'il lui faut. Lui donner 3 pains au milieu de la nuit, c'est toute une affaire. Mais remarquez que dans cette histoire qui se trouve racontée dans Luc chapitre 5, à partir du verset 5, cet homme ne vient pas chercher du pain pour lui, il vient chercher du pain pour l'autre. Et Jésus va conclure cette histoire en disant au verset 9, lisons dès le verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est dans ce même contexte que l'on a lu tout à l'heure, où Jésus dit, mais enfin, vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, et vous pensez que Dieu ne va pas vous donner le meilleur de ce qu'il a quand vous le lui demandez. Une implication dans la mission. Cet homme va réveiller et importuner son ami, non pas pour pouvoir avoir une collation à 11h du soir, mais parce qu'il veut donner du pain à l'autre. C'est pour l'autre qu'il est venu chercher, c'est pas pour lui. Du même auteur, écoutez cette phrase. Le Saint-Esprit sera donné à tous ceux qui supplient de recevoir le pain de vie pour le donner à leurs voisins. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous reconnaissons que Dieu a accompli dans cette fête de la Pentecôte les prophéties qui se trouvaient dans le livre de Joël, les prophéties de l'Ancien Testament, en tout cas en partie, en accordant ce que nous appelons la pluie de la première saison pour démarrer l'Église. Et vous vous souvenez qu'en une journée, il y a eu 3000 baptêmes. Mais lorsque Dieu va répandre la pluie de l'arrière-saison, pour terminer l'œuvre de Dieu dans le monde, pensez-vous que cette œuvre devra se terminer par une action moins puissante que celle par laquelle elle a commencé? Sûrement pas. Si Dieu veut achever cette œuvre, il faudra que Dieu mette toute sa puissance dans le monde d'aujourd'hui pour qu'elle soit achevée à sa manière. Vous avez probablement entendu comme moi des personnes dire « nous devons achever l'œuvre ». Et ces personnes sont souvent frustrées parce qu'elles comparent le progrès de la population dans le monde avec le progrès de l'évangélisation. Et c'est sûr, le nombre de personnes qui naissent dans le monde est bien plus important que le nombre de ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Et certains se demandent, mais on n'y arrivera jamais? Mais non, on n'y arrivera jamais parce que finir l'œuvre ne sera jamais la responsabilité de qui que ce soit. Seulement Dieu peut le faire. Aucune église, aucun d'entre nous, aucun prédicateur si brillant qu'il puisse être ne pourra terminer l'œuvre. Seulement Dieu sera capable de le faire. Mais il va choisir ses instruments parmi nous. Est-ce que nous sommes disposés à devenir les instruments de cette puissance et de l'action de Dieu pour achever cette œuvre. C'est la raison pour laquelle Dieu veut nous voir impliqués dans cette mission. Autrement dit, si vous voulez, on ne donne pas une caisse à outils à quelqu'un qui n'a de toute façon pas l'intention d'aller travailler. On ne va pas gaspiller de l'énergie sur quelqu'un qui ne veut pas travailler. On ne va pas lui donner un salaire, on ne va pas lui donner les outils. Il restera à la maison de toute façon. Dieu investit son esprit dans ceux qui, par leur action, lui disent « La mission, je l'ai à cœur et je m'y implique. » C'est à ce moment-là que Dieu répond en accordant les outils, les moyens d'accomplir cette mission que nous avons déjà choisie. La sixième condition pour recevoir le Saint-Esprit se trouve inscrite dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 24. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24, dit ceci. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Il est important de reprendre ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurez, habitez. Notre relation avec Dieu ne peut pas être accidentelle, sporadique. Jésus nous invite à être un temple du Saint-Esprit. Il veut que nous puissions être une habitation de Dieu en esprit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, il nous est dit que si nous voulons être au bénéfice du salut en Jésus-Christ, d'être au bénéfice de la vie éternelle et non de la condamnation, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Ce n'est pas accidentel, ce n'est pas passager que le Seigneur fasse sa demeure en nous, qu'il y habite. Pas qu'il soit de passage comme à l'autel, mais qu'il demeure en nous. Nous avons été édifiés, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, pour être une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est donc pas quelque chose d'accidentel. C'est une marche constante avec lui. Le Seigneur veut habiter chez nous. C'est une condition pour que son esprit y accomplisse son œuvre. La transformation se fait pas à pas, au fur et à mesure du temps, alors qu'il habite en nous et que nous habitons en lui. La dernière condition pour recevoir l'Esprit est illustrée dans un passage qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 25. Il y a là un exemple qui est donné d'un roi qui s'appelle le roi Amatsia. Et il est dit au verset 2, deuxième livre des Chroniques, chapitre 25, verset 2, « Amatsia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. » Curieuse comme formulation. Le texte nous dit qu'il a fait ce qui est droit, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Et quand vous lisez l'histoire de ce roi, vous vous rendez compte qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'il en a fait aussi beaucoup de mauvaises. C'est un homme qui avait cette volonté de bien faire, mais son cœur n'était pas entier associé au plan de Dieu. La septième condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir un cœur non partagé. Jésus avait expliqué qu'on ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas, finalement, permettre cette expression que nous avons, être assis entre deux chaises. Ce que le Seigneur demande, c'est d'avoir un cœur entièrement consacré à lui. C'est finalement que nos intérêts soient d'abord associés à son royaume. Que nos priorités soient d'abord associées à son royaume. Que nos objectifs, que le plan de notre vie soient d'abord associés à son royaume. Et tout le reste s'organise en fonction de ça. Combien de fois dans nos vies, au contraire, les soucis de ce monde sont primordiaux et nous essayons d'accommoder le reste des demandes de Dieu en fonction de cela. Dieu nous propose de faire l'inverse. d'avoir un cœur non partagé, un cœur entier consacré à lui. Vous vous souvenez dans l'épître de Jacques, l'apôtre dit « si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu ». Mais vous vous souvenez comment il continue ce passage dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, il dit un petit peu plus loin, mais qu'il la demande, cette sagesse, avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot qui est employé ici pour irrésolu est un mot intéressant. Dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui veut dire avoir deux âmes. Un homme à double personnalité, si vous voulez. Un homme, autrement dit, dont le cœur est partagé. Et l'apôtre dit, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La septième condition, c'est d'avoir un cœur non partagé. Dieu met à notre disposition la plus grande puissance de l'univers. Il met à notre disposition sa propre personne, accessible par son esprit. Nous avons tous fait l'expérience de notre impuissance, de notre faiblesse, de notre incapacité à agir dans notre propre vie et encore davantage dans celle des autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous propose de recevoir le Consolateur, l'Esprit, l'Esprit Saint. Il est nécessaire que nous sachions comment aller chercher cette ressource infinie que le Seigneur a mis à notre disposition. Elle ne tombe pas par hasard sur la tête de l'un ou la tête de l'autre, comme un éclair va foudroyer un arbre par hasard. Elle viendra, cette puissance de Dieu, sur ceux qui l'auront recherchée et demandée, et qui se seront mis dans les conditions pour la recevoir. Écoutez en terminant ce paragraphe. C'est l'absence du Saint-Esprit qui rend le ministère de l'Évangile si peu efficace. L'éducation, les talents, l'éloquence, les capacités naturelles ou acquises ont toutes leur place. Mais sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, aucun cœur ne sera touché, aucun pécheur gagné à Christ. Par contre, s'il a contact avec le Christ, si les dons du Saint-Esprit sont en lui, le plus pauvre et le plus ignorant de ses disciples manifestera une puissance qui touchera les cœurs. Dieu fera de lui un canal qui répandra la plus grande influence de l'univers. Je souhaite que le Seigneur puisse trouver en moi un cœur disposé à recevoir cette puissance pour être un canal qui diffusera cette plus grande puissance qui existe dans l'univers pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Amen.